le passe pas, si je le chante, parce que ne vous immolez pas sur rien, sur aucun autel. S'immoler, ça veut dire quoi ? Se sacrifier soi-même. Oh là là, ne sacrifiez votre vie à rien. Mais pourtant, il dit, celui qui ne prend pas sa croix, pas n'importe quoi, celle de Jésus-Christ, il ne sera pas sauvé. Il faut le suivre. Et suivre Jésus, c'est-à-dire le suivre jusqu'à la croix. L'évangile est radical comme ça. Daniel, il me dit qu'il veut faire une étude sur l'évangile de Luc à Thumri. Ben, tu vas voir le nombre de passages qui sont imbuvables. Ils sont imbuvables parce que c'est du radical. Parce que vous devez donner tous vos biens aux pauvres. Ah oui, le jour où tous ces députés qui ne connaissent rien à l'évangile vont commencer à le lire, ils vont dire, oh, mais ils sont radicaux ces gens. C'est radical l'évangile. Et on est obligé, si on lit l'évangile, de se confronter à ces paroles. Ce qui perd gagne. Le qui perd gagne, il dit, le but c'est bel et bien de gagner sa vie, de sauver sa vie, mais pour faire ça, il faut la perdre. Comment on peut envisager ce chemin ? Moi, je vais vous le commenter en prenant quelques exemples précis qui sont des mises en œuvre de ce qui perd gagne. Parce que le royaume de Dieu et sa justice, certes, ils seront accomplis à l'avènement du Seigneur, à la fin des temps, mais en attendant. En attendant, on est dans le royaume de ce monde qui a ses propres règles, ses propres lois, ses propres... En attendant. Eh bien, en attendant, le royaume de Dieu est parmi nous. C'est ce que a dit Jésus aussi, je ne fais que des citations de Luc. Le royaume de Dieu est parmi nous. N'ayez pas crainte, n'ayez crainte, petit troupeau qui se trouve sur la terre, parce que le Père a décidé de vous donner le royaume. Et alors, je vais donner un exemple simple, le pardon. Le pardon... Alors là, si on n'a pas compris que l'évangile, ça consiste à pardonner, Luc 11, verset 4, c'est le Notre Père, version Luc, « Pardonne-nous nos péchés, car nous pardonnons nous-mêmes à ceux qui ont des torts envers nous, et garde-nous de céder à la tentation. » Pourquoi le pardon, c'est un qui perd gagne ? Et pourquoi, il faut se demander pourquoi on a tellement de mal à pardonner quand on a été offensé ? Parce que ça paraît évident, voilà, on pardonne, et on supprime le mal en pardonnant. Pourquoi on ne le fait pas facilement ? Parce que le pardon, c'est une injustice. Vous savez que le pardon est une injustice ? C'est quoi la justice ? La justice, c'est la rétribution. La justice, c'est que si quelqu'un a fait du mal, il faut quand même qu'on le dise, que ce qu'il a fait, c'était mal, qu'éventuellement il soit puni, si possible qu'il répare le mal qu'il a fait. Ce n'est pas toujours possible, mais quand c'est possible, normalement, on devrait le faire. Si quelqu'un m'a fait du mal, la justice, c'est que ce quelqu'un reconnaisse qu'il a fait du mal et qu'il en subisse la peine. Ça ne répare pas toujours, mais c'est la justice. La justice est une vengeance. C'est ça qu'il faut comprendre. Dans les pays civilisés, on a une justice, on n'a pas le droit de se faire justice soi-même. Pourquoi ? Parce que ça n'en finirait jamais. Parce que chacun se mettrait à se venger de ce qu'il a subi. Et puis, bien sûr, quand on se venge, on en fait toujours trop. Et du coup, la vengeance produit une autre injustice qui produira une autre vengeance. C'est sans fin. Voilà pourquoi, dans tous les peuples civilisés, il y a une justice qui est organisée, en fait, qui est une vengeance encadrée. On veille à faire en sorte que, oui, certes, il y ait une punition, mais ce qu'il faut, normalement, pas trop... et que cette punition, elle soit bien celle de toute la société et non pas une vengeance personnelle. La justice, c'est de la vengeance, même limitée. Le pardon, c'est renoncer à la vengeance. C'est dire, j'ai subi du mal, je ne me vengerai pas. Essentiellement, c'est ça. Si vous voulez savoir concrètement c'est quoi le pardon, j'ai subi du mal, je ne me venge pas. J'ai subi de l'hostilité, de la haine, je ne vais pas rendre de l'hostilité et de la haine. C'est ça le pardon. Et le pardon est une renonciation à la justice. Ça consiste à perdre. Celui qui perd, gagne. Quand je pardonne à quelqu'un, je perds quelque chose. Je perds un droit. Le droit que j'ai d'être reconnu dans ce que j'ai subi, le droit que j'ai de... voilà, à la vengeance, fût-elle civilisée, je renonce à un droit. Est-ce que Dieu n'a pas le droit de nous envoyer en enfer à cause de nos péchés? Il a dit le salaire du péché, c'est la mort. Pourquoi il ne le fait pas? Il renonce à un droit qu'il a. Et chaque fois que nous pardonnons à quelqu'un, nous renonçons à un droit. C'est pour ça que c'est difficile, c'est un renoncement. C'est une perte. Je perds. J'accepte de perdre. Et le miracle, c'est que je gagne. Je gagne. Je gagne quoi? Je gagne mon frère ou ma sœur. Ça peut arriver, mais ce n'est pas sûr. Vous voyez, c'est ça ce qui est... Si seulement je pouvais être sûr que si je pardonne à mon frère, du coup, il va être touché, lui aussi, il va se convertir. Et... Ah, si c'était à chaque fois comme ça, ce serait merveilleux. Mais ce n'est pas toujours le cas. Le pardon, c'est unilatéral. C'est ça aussi qui fait que c'est frustrant. Moi, je lui ai pardonné, et lui, il est toujours aussi méchant. Donc, on perd. Vous voyez? On perd, mais on gagne. Parce que celui qui est pardonné est libéré du mal. Quelqu'un a dit, c'est dur à dire, si vous n'avez pas pardonné à quelqu'un, vous dormez avec. C'est un peu brutal, mais c'est vrai. Si vous n'avez pas pardonné à quelqu'un, il y a un lien mauvais entre vous et ce quelqu'un, et il est toujours avec vous, tout le temps. Ça vous habite, ça fait partie de vous. C'est pour ça que celui qui gagne, qui veut gagner sa justice lui-même, ben il perd. Alors que celui qui perd, qui renonce à son droit en pardonnant, il gagne. Voyez, c'est important parce que ce qui perd gagne, comment souvent on dit, bah oui, qui perd, celui qui veut sauver sa vie la perdra. Bah, évidemment, c'est l'exemple de Jésus-Christ. C'est lui, Jésus, le seul qui soit allé jusqu'au bout. Lui qui a accepté de perdre sa vie pour nous. Et puis on dira, comme il s'agit de perdre sa vie, ça s'applique aux martyrs. Les martyrs qui acceptent de perdre la vie pour leur foi, là, on comprend. Mais ça va plus... Pour moi, le qui perd gagne, c'est un principe fondamental du royaume de Dieu. Et moi, j'ai souvent ça en tête dans la vie courante. Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on doit se comporter? On doit toujours se souvenir que qui perd gagne et qui gagne perd. Le pardon, c'est un exemple. Je vais donner un autre exemple. Je veux parler de l'argent, de la richesse. Alors là, dans l'évangile de Luc, c'est lui qui dit malheur aux riches. Je me tourne vers Daniel parce qu'il va devoir faire... Et le nombre de passages, dans Luc spécialement, il y en a aussi ailleurs, où il dit le riche, il est impossible à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est à ce sujet-là que les disciples de Jésus, qui souvent ne comprennent pas ce que dit Jésus, pour une fois, ils comprennent. Ils disent... Mais qui peut être sauvé? Ils comprennent que si Jésus dit ça, c'est pas seulement pour les riches que ça concerne tout le monde. Ils disent, qui peut être sauvé? Et Jésus dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Vous voyez, mais c'est impossible aux hommes. C'est ça la radicalité de l'évangile. Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Je lis pas le texte là, mais c'est le jeune homme riche là, hein. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Ah ben, en plus, c'était un homme bien, qui avait respecté les commandements toute sa vie. Ça m'a frappé, je ne sais pas pourquoi. Dans l'Ancien Testament, il n'y a pas beaucoup de commandements sur la richesse. Ce n'est pas interdit d'être riche. D'ailleurs, Jésus dit, c'est aussi dans l'évangile de Luc, que les pharisiens, ils étaient souvent riches. Ce n'est pas interdit. Et Jésus, lui, il dit malheur aux riches. Excusez-moi, il n'y a pas beaucoup de riches dans l'Église, souvent c'est comme ça, un peu partout. Paul le disait de son temps, il n'y a pas beaucoup parmi nous de riches ni de gens importants. Et dans l'Église, souvent c'est pareil, peut-être à Paris, il y en a plus, j'en sais rien. Mais ici, cherchez-les. Ouais, mais attendez, votre compte en banque, vous avez sûrement des réserves. Enfin bref, ça s'applique à tout le monde, surtout dans le... surtout... dans la manière à laquelle on s'attache à ces richesses. Je vais lire celui de l'homme riche. Il y a plusieurs hommes riches. Luc 12, verset 16. Non, il y en a plusieurs, alors je me... Cette parabole, vous la connaissez, le domaine d'un riche propriétaire avait rapporté de façon exceptionnelle. L'homme se mit à réfléchir. « Que faire ?» se demandait-il. « Je n'ai pas assez de place pour engranger toute ma récolte. »« Ah !» se dit-il enfin, « je sais ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers pour en construire de plus grands. J'y entasserai tout mon blé et tous mes autres biens. Après quoi, je pourrai me dire, « Mon ami, te voilà pourvu de biens, en réserve. » Pour de nombreuses années, repose-toi, mange, bois, jouis de la vie. Mais Dieu lui dit, pauvre fou que tu es, cette nuit même tu vas mourir, et tout ce que tu as préparé pour toi, qui va en profiter? Voilà quel sera le sort de tout homme qui amasse des richesses pour lui-même, au lieu de chercher à être riche auprès de Dieu. Bon, quand on analyse cette parabole, moi c'est faramineux. Cet homme, il tourne autour de son tas de blé, en se parlant à lui-même. Vous voyez, moi j'examine toujours dans les textes qui sont les personnes, les personnages et quelles sont leurs relations entre elles. Eh bien là, il y a moi et moi autour de mon tas de blé, et je parle à mon âme, et je me dis à moi-même, eh bien t'es riche et c'est bien, tu vas... Il parle à lui-même, il tourne autour de lui-même, il est enfermé sur lui-même, et enfermé sur lui-même, c'est la mort, c'est le contraire de la vie. C'est pour ça que ce n'est qu'une conclusion logique quand Dieu lui dit « Cette nuit même, ton âme te sera redemandée, tu n'es plus vivant. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Tu n'es plus vivant, tu es dans ton tas de blé, ou dans ton tas d'or, ou dans ton compte en banque, ou dans ton assurance vie, je ne sais pas. Moi, toutes les formes que ça peut prendre, tu n'es plus vivant. Parce que être vivant, c'est la relation avec les autres, c'est se tourner vers le Seigneur et se tourner les uns vers les autres. Quelle est la vraie richesse du royaume de Dieu que nous devons chercher ? Ben c'est ça. C'est le contraire de ce que fait cet homme, c'est se tourner vers le Seigneur et se tourner les uns vers les autres. Et pour ça, ben mon tas d'or, là, il va devenir, s'il n'est pas mon maître, s'il n'est pas mon idole, il va devenir un serviteur. C'est pas interdit d'être riche. Mais moi, je dis, dans l'Évangile, en tout cas dans Luc, la richesse, c'est un peu comme l'alcool. Il y a des gens qui boivent de l'alcool et qui ne sont pas alcooliques. C'est possible, si on est modéré, si on fait attention, etc. Mais c'est toujours un danger. Il faut faire attention. Il y en a plein aussi qui sont dans le piège et qui sont alcooliques, un petit peu ou beaucoup. Et même quand on ne l'est pas, moi, je pense que je ne le suis pas. Moi, je vous assure, je le vérifie régulièrement. Comment je vérifie ? Je bois aucun alcool pendant 3 semaines. Voilà. Si je ne suis pas perturbé, c'est que je ne suis pas alcoolique. Si je ne suis pas bien, c'est que je suis alcoolique. Vous voyez ? Même un peu. J'ai peur. Je ne veux pas tomber dans le piège, dans l'idolâtrie. Mais les richesses, dans l'Évangile, c'est un peu la même chose. Si vous avez des richesses, il se peut que vous soyez des gens ouverts au royaume de Dieu, et que vos richesses ne soient pas pour vous un piège, le signe le plus probable, c'est que vous allez être généreux. Généreux envers le Seigneur, envers l'Église, envers les frères et sœurs, et que votre argent servira, voilà, pas maître mais serviteur, servira pour le royaume des cieux. Alors là, ça va, vous n'êtes pas piégé. Mais il y a une forte mise en garde dans l'Évangile. Qui perd gagne ? Celui dont le but, c'est de gagner sa vie, comme on dit. Vous vous rendez cette expression ? Bon, on le dit de manière banale. Gagner sa vie, ça veut dire gagner de l'argent. Eh bien, celui-là, il perd sa vie. Et celui qui est capable de perdre son argent, celui-là, il gagne. Parce que le Seigneur ne nous a pas envoyés pour être des miséraux. Il nous a aussi promis qu'il s'occupait de nos besoins. Et qu'on peut lui demander, légitimement, lui demander de pourvoir à nos besoins, parce que ça fait partie de ses promesses, que nous puissions vivre en ne manquant de rien. Hein, je ne suis pas en train de vous dire, soit devenez des locteux sur les routes, non. Mais quel est notre cœur vis-à-vis de notre richesse ? Ça entre, c'est du concret, et ça entre dans ce principe de l'Évangile, celui qui perd, qui renonce, lui, il a gagné. Il a gagné la vie. Et celui qui veut gagner, il va vers sa mort. C'est un autre exemple. Un autre exemple dans les relations, dans les relations mutuelles. Bon, je l'ai déjà dit un peu vis-à-vis du pardon, parce que c'est le cas, hein, c'est parce que c'est le point le plus critique dans nos relations mutuelles. Là, quand ça ne va pas, qu'est-ce que je dois faire ? Ben, quand ça ne va pas, je dois pardonner. Et pardonner, c'est du concret, ça veut dire je renonce à tout ce qui ressemble à une vengeance, à rendre le mal pour le mal. En faisant ça, je n'ai pas forcément résolu tous les problèmes, mais moi, je permets que ce qui, je laisse la place pour que ça se produise, pour qu'il soit résolu. Moi, j'ai entendu Thierry Le Gall, il répète sans arrêt, « La foi ne rend pas les choses faciles, elle les rend possibles. » Ben oui, c'est vrai. La foi rend toutes choses possibles. Et le pardon, mais ce n'est pas seulement le pardon, il y a des tas d'autres choses. Vous avez envie de faire des choses pour le Seigneur ? Vous avez envie de faire des choses dans l'Église ? Vous avez envie de faire ceci et cela ? Ça vous est jamais arrivé d'être frustré ? Et de ne pas y arriver ? Oui, si. On voudrait que et on n'y arrive pas. Alors qu'est-ce que je vais faire de cette frustration ? Alors la frustration, c'est à cause de quoi ? Souvent, c'est à cause des autres. Hein, bon. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous met du bâton dans les roues, ou bien les autres, ils n'ont rien compris à ce que vous voulez, ou bien etc. Qu'est-ce que je vais faire de cette frustration ? Mais je ne vais rien en faire. Je vais la perdre. Voilà. Et c'est un renoncement. Je vais la perdre, cette frustration. Je vais lui dire zut, tant pis. Et je vais perdre et je vais gagner. Et vous savez, ce qu'on gagne, on ne sait pas ce qu'on gagne. Parce que ce qu'on gagne, en général, ça nous est donné. Ça nous est donné de Dieu ou ça nous est donné d'autrui. Et puis, voilà, c'est un don et on gagne beaucoup plus et beaucoup mieux que ce qu'on aurait pu espérer réussir à faire et qu'on n'a pas réussi. Il y a la jalousie aussi. La jalousie, c'est quand je voudrais faire quelque chose et puis il y a quelqu'un qui se lève et qui fait mieux que moi. Je suis jaloux. Surtout s'il prend la place et qu'il se met devant moi et que moi je suis derrière et puis qu'on ne me voit plus. C'est arrivé une fois, ça m'a fait bien rigoler parce qu'il y avait un type, c'était dans le cadre du travail, il était très grand et gros, que j'étais derrière, on ne me voyait plus. Enfin, ça peut être au sens figuré aussi. Hein. Voilà, c'est un tel, tout le monde s'occupe de lui, tout le monde lui dit c'est bien ce qu'il fait, puis moi on me dit rien. Et puis je suis jaloux, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais perdre. Heureux celui qui perd, qui accepte de dire j'ai perdu ce coup-là. J'ai pas réussi. J'ai pas réussi, mais au lieu de rester dans la jalousie, dans ces sentiments hostiles, je vais réussir à rester dans des sentiments d'amour, de bienveillance envers tout le monde. Celui qui fait ça, il a gagné. Parce qu'il a gagné l'essentiel et le reste viendra par-dessus, c'est-à-dire les réussites concrètes. Est-ce que Dieu veut qu'on réussisse pas dans la vie, juste pour nous humilier ? Non ! Mais ces réussites, aussi, notre réussite, ça peut être une idole. Hein. Ça peut être aussi notre point d'accrochage. C'est ça qui ne va pas. C'est quand ça devient une idole. Et pour que ça ne devienne pas une idole, il faut renoncer. Voilà. Reculer. Moi, ça m'a frappé que j'ai acheté une maison. Je vous ai déjà raconté ça, mais... Moi, j'avais un plan d'épargne. Des sous. Et puis, un jour, je priais le Seigneur, à cause de tous ces textes, j'ai dit... Et je disais au Seigneur dans ma prière, moi je suis prêt à te donner tout ce que tu veux. Puis pouf, tout de suite j'ai pensé à ce plan. Le Seigneur m'a dit, même ça ? J'ai dit, ok, même ça. Ok, on va voir. C'était un plan, vous savez, c'est bloqué pendant 8 ans, et puis vous avez des intérêts faramineux après, si vous n'y touchez pas pendant 8 ans. Et puis ma femme, en même temps, elle voulait une nouvelle maison. À l'époque, on n'avait pas beaucoup de chambres. Tout ça. Et elle priait le Seigneur, et à un moment, le Seigneur lui a dit, arrête de prier pour ça. Parce que aussi, et c'est paradoxal, il faut prier le Seigneur pour ses besoins. Et à un moment donné, il ne faut pas en faire une obsession. Il faut dire, je remets ça au Seigneur et je ne m'en soucie plus, je perds, je lâche. Et elle l'a fait. Et tous les deux, chacun de son côté, quelques semaines plus tard, on avait une nouvelle maison, puis mon plan d'épargne. Mais j'étais prêt, parce que j'avais accepté de perdre. Je n'ai pas hésité un seul instant. Je savais qu'il fallait sabrer ça, tant pis. À terme, j'ai perdu des sous, je m'en fous. J'ai accepté, j'ai perdu et j'ai gagné. Parce que le but du Seigneur, ce n'était pas de nous mettre dans la misère. Et c'est le but du Seigneur, c'est de nous faire gagner à la fin. Un autre exemple. Au même moment, Jésus fut transporté de joie par le Saint-Esprit et s'écria « Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces vérités aux sages et aux intelligents et que tu les as dévoilées à ceux qui sont tout petits. Oui, Père, dans ta bonté, tu l'as voulu ainsi. » Vous savez, il y a d'une part, au passage, j'aime bien le remarquer, je le remarque de plus en plus, c'est un des très nombreux passages dans la Bible où il y a la Trinité. Hein. Jésus, transporté de joie par le Saint-Esprit, et s'écria « Je te loue, ô Père ». Vous avez la communion du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je le dis au passage pour montrer, ça montre l'importance de ce passage, parce que cette parole de Jésus, elle est dite dans la communion du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'il dit ? Tu as caché ces vérités aux sages et aux intelligents. Vous ne savez pas, mais moi j'ai reçu ça, ce texte, en marchant dans la rue à Strasbourg, quand j'allais commencer mes études en théologie. Juste avant la rentrée, ce verset, il m'est tombé sur la tête. J'ai eu l'impression comme ça. Pourquoi fait-on des études pour être sage et intelligent ? Peut-être que vous n'avez pas fait d'études. J'espère que vous n'êtes pas jaloux. Hein. Vous avez vu ce qu'il dit des sages ? Tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Et tu les as révélées aux tout petits. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas faire d'études ? Ben, moi, quand le Seigneur me parle, quand ça m'arrive, c'est toujours précis. Ça ne voulait pas dire pour moi que je ne devais pas faire d'études. Le Seigneur m'a permis de faire des études. Et aujourd'hui, je n'ai aucun regret là-dessus. Il m'a mis les choses en place. Est-ce que tes études vont devenir ton idole ? Ah, je suis sage et intelligent. D'emblée, il m'a mis les choses en place. Je sais que si je deviens quelqu'un fier de sa sagesse et de son intelligence, ben Dieu va me cacher des choses, au lieu de me les révéler. Je sais, je l'ai appris, et je dois faire attention. Hein, comme pour l'alcool. C'est pas interdit, mais il faut faire attention. Et donc, il les a révélés aux petits. C'est aussi une invitation forte à avoir du respect pour les petits. Le petit, il peut comprendre l'évangile mieux que moi. Je ne l'oublie jamais. Jamais. Voilà. En l'occurrence, celui qui n'a pas fait d'études. Il a peut-être, sans doute, je dois présumer, que le Saint-Esprit lui a révélé ces choses à lui. Voilà. Vous voyez, ça remet les choses en place. Qui perd, gagne. Moi, je perds et je dois accepter de perdre. La fierté, le gain que je peux considérer comme un gain d'avoir fait des études, il faut le perdre. Et si je le perds, je gagne. Moi aussi, je suis petit. C'est indispensable. Il faut que je sois petit dans mon être intérieur. Quand je prie, des fois, j'interroge. Je dis pas qu'est-ce qu'il dit celui qui a fait de la théologie. Non, qu'est-ce qu'il dit le petit ? Le Seigneur, il parle au petit. Alors, si je suis petit, j'ai ma chance que le Seigneur se révèle à moi. Aussi. Dans les relations une fois je l'ai dit à un couple aussi. J'ai dit fais attention à ne pas mettre le grappin sur ta femme. Parce que qu'est-ce que tu veux ? Tu veux la gagner. Et en faisant ça, tu crois que tu l'aimes. Tu veux la prendre. Mais c'est le contraire. Si tu la laisses tranquille, si tu renonces paradoxalement, ben, tu vas gagner. Parce que elle t'aime, elle te veut. Eh bien, vous voyez, c'est du concret. Ce n'est pas un principe qui s'applique que à Jésus-Christ ou que au moment où vous êtes martyr, où vous donnez votre vie pour le Seigneur. Il faut se souvenir de ce qui perd, gagne. Qui veut gagner, qui veut gagner par lui-même, là. Il perd. C'est un principe du royaume de Dieu et les principes du royaume de Dieu sont des principes de vie. Nous devons les étudier dans l'Évangile, même si c'est un peu radical. Avec Jésus, c'est toujours radical. Hein, c'est toujours malheur aux riches. Bon. C'est toujours radical avec Jésus, mais c'est parce qu'il veut nous enseigner que ce principe n'est pas un principe relatif, c'est un principe vrai. Et nous devons lire l'Évangile, nous devons demander au Saint-Esprit de nous révéler la vérité de ces choses.
et se demander chaque jour, j'ai comment je dois mettre en pratique, c'est quoi les trucs que je dois lâcher. Pas pour être à terre et être piétiné par les autres, non. Pour que ce soit le royaume de Dieu qui triomphe dans ma vie. Seigneur, révèle-nous ces choses. Fais-nous tout petits. Il me vient ce vieux cantique, rends-nous tout petits devant ta face. Rends-nous tout petits et Seigneur, c'est toi qui fais grandir les petits. Les petits ne se grandissent pas eux-mêmes. Ils ne se proclament pas. Quand ils se proclament grands, ils se perdent. Seigneur, fais de nous des gens qui vivent du royaume de Dieu. Amen.